On a poussé le curseur encore une fois. Hein. Je crois qu'on est premier en Europe, puisqu'il y a déjà une marque qui l'a fait au Canada et au Japon. On est premier en Europe à lancer cette technologie. C'est le vernis, en fait, d'un point de vue écologique, c'est le vernis le plus écologique du monde. Pourquoi? Parce que 55% du produit, c'est de l'eau.
Bonjour, je suis Chantal Soutarson. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous avez passé de très belles vacances. Aujourd'hui, je reçois Boris Grattini. Avec son associé, Lilian Monnier, il a fondé Nelmatic, c'était au début des années 2010. Nelmatic, ce sont ces distributeurs de vernis qu'on trouvait dans les concept stores branchés. Bon, comme moi, j'imagine, vous avez longtemps cru que c'était une marque de vernis pour enfants. Eh bien, sachez qu'il ne faut pas se fier aux apparences. Avec Boris, on a parlé de ce quiproquo, de l'évolution des formules Nelmatic au fil des ans et du monde cosmétique à l'ère de la Covid-19. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bon, cette phrase de lancement, je pense que j'arriverai jamais à la changer. Bonjour Boris.
Bonjour.
Qu'est-ce qui t'a poussé vers le vernis en 2012?
Bah, c'était un cheminement. On n'était pas du tout parti sur le vernis. L'idée, c'était d'innover, c'était de faire quelque chose un petit peu après d'autres expériences dans des boîtes un peu plus grosses avec mon associé Lilian. On a cherché, on a prospecté sur différentes. On était parti sur de l'accessoire.
D'accord.
Et on s'est dit finalement, ce qui nous a intéressé autour du vernis, on s'est dit, mais peut-être que le vernis à ongles, est-ce vraiment un produit de cosmétique ou est-ce vraiment un accessoire? Et on s'est dit, comment essayer d'emmener ce produit finalement dans l'univers plutôt de la mode que l'univers de la cosmétique? Parce qu'on s'est dit finalement, on s'achète une robe, on a envie de s'associer à un petit vernis avec. Et on s'est dit, en effet, comme la distribution est très cloisonnée, ben ce vernis il est vendu aujourd'hui dans la parfumerie ou dans des univers plutôt de beauté, et qu'on s'était dit que c'était intéressant de le sortir. Et en fait, la démarche est venue, d'où le distributeur automatique qui est arrivé
Oui,
derrière après, avec
c'est
les
ça.
problèmes de produits qui sont faciles à voler, etc. Donc c'était aussi un des freins dans ces
Ouais.
réseaux de distribution. Et voilà, et en fait, on s'est dit, à un moment donné d'ailleurs, où ce produit était en forte croissance, hein, qui est souvent un produit qui vit des cycle, hein, des hauts, des bas, des hauts, des bas. On était plutôt sur une phase ascendante et on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose autour de ça? Et puis on était aussi parti d'un truc qui était, il y avait plein d'autres choses qu'on s'était mis en objectif. C'était, on croit l'idée de faire aussi l'entreprise citoyenne. On voulait faire un bilan écologique sur le produit, donc on voulait faire un produit qui était 100% made in France. Il y avait la possibilité sur ce produit de le faire, etc. Donc en fait, il y a plein de choses qui fait qu'on est arrivé à ce produit-là.
D'accord. Et donc oui, en fait, l'idée du distributeur automatique est née quasiment en même temps que l'idée de faire du vernis, quoi.
Ouais, un peu, parce qu'en fait, on s'est dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu regardes un peu les modèles, quand on regarde la distribution intégrée, hein, y est arrivé, hein, il y en a, on voit le modèle Rocher, par exemple, en effet, qui a résisté aussi parce que c'était un des premiers à avoir son modèle intégré, des Kiko, plus récents, etc. Et on s'est dit, en effet, on n'a pas les moyens, nous, de se faire un réseau intégré. Mais par contre, on s'est dit, peut-être qu'en effet, par le biais de la distribution, s'il y a un MeToo, on pourrait essayer. Et puis, je crois qu'on avait vraiment envie à ce moment-là, on pensait que ça avait déjà été fait d'ailleurs, parce qu'on
Ah
a
oui.
prospecté un petit peu sur l'Asie en se disant, bon, bah, ok. Autant en Europe ou en France, on n'est pas très distribution automatique, mais en Asie, ils vendent à peu près tout dans la distribution
Ouais.
automatique. Donc, on est allé au Japon, on a prospecté un peu aussi sur le Japon et on s'est rendu compte que ce n'était pas fait.
Ah ouais.
Et on s'est dit, tiens, ça serait vraiment intéressant. En plus, ça n'a jamais été fait, allez, allons-y. C'est amusant. Et on a commencé à réfléchir au projet. On a associé les 5-5 designers aussi sur ce projet-là au départ, une agence qu'on adore et des copains. Et voilà, et en fait, l'idée est partie comme ça.
D'accord. Et alors, chez Nelmatic, en fait, les collabs, ça a été tout de suite un peu votre marque de fabrique, quoi. Pourquoi vous avez misé là-dessus, sachant que au début des années 2010, c'était pas un modèle très répandu?
Ben, parce que on a eu des opportunités Et qu'assez vite, on a intégré que la mode, finalement n'étant pas dans l'univers de la mode, on allait faire des collabs avec la mode pour pouvoir se positionner comme une marque qui était plus... D'ailleurs, on n'est pas du tout allé dans la parfumerie. Nous, au début, on commence à glisser un petit peu sur la parfumerie, etc. Mais notre cœur de métier, c'était l'univers de mode, les concept stores, etc. Donc, je crois qu'une des premières collabs qu'on a fait, c'était Merci. Et après, on les a déclinés. Il y a eu Printemps, il y en a eu plein. Et jusqu'en 2017, on est même allé plus loin puisqu'on a créé un pack plus minimaliste et qui est personnalisable. Aujourd'hui, on fait une Elmatic pour des produits co-brandés. Et là, on en a... D'ailleurs, on est rentré aux États-Unis en 2017 en faisant une énorme collab avec J.Crew. Donc, on a fait très, très belles collabs. Adidas. Ça a profité énormément à la marque parce qu'en effet, on s'associe quand même à des marques qui ont plus de notoriété que nous et qui ont porté aussi la marque. Donc, ça a fait partie vraiment de la construction de marque et ça a fait partie aussi de l'identité, puisque tu vois, tu l'as remarqué aussi, de l'identité de marque.
La formule, c'est évidemment super important. Et très vite, vous avez proposé des vernis clean, mais pour les enfants. Alors, pourquoi ce choix?
Parce qu'en fait, quand on a créé la marque en 2012, on était déjà parti sur le woman. Et sur le woman, on avait trouvé une formule, en effet, c'est pas encore la clean, on n'est pas en biosourcé, mais qui était déjà les sans phtalates, les sans formaldéhyde, etc. Il y avait assez vite et arrivé des mamans qui nous ont dit « Oh ben, votre produit, il est made in France, il est plutôt clean, il n'y a pas de souci, etc. » On peut l'utiliser sur les enfants. Et en fait, la question, on s'est dit, on n'était pas à l'aise avec ça. On se dit que finalement, nous, on a vraiment créé Nelmatic Kids parce que on ne veut pas faire des petites filles des Lolitas. Enfin, on déteste cette idée-là. D'ailleurs, on a fait très attention parce qu'à un moment donné, on s'est dit, oh là là, on n'a pas envie, on ne voudrait pas qu'on nous croie opportunistes là-dessus. Mais on est vraiment venu répondre. Et puis alors cette formule, moi, cette fameuse formule à l'eau, quand j'ai été directeur général de Déborah et je l'ai eu sur débit. C'était une formule que j'avais déjà essayé de lancer, ça n'avait pas fonctionné tout. Mais je me suis dit, on l'avait mal fait, on l'avait pas bien marketé, alors que ce produit-là est génial. Et donc, on est revenu à la charge sur ce produit-là. On l'a largement amélioré parce que la formule était quand même moins bien à l'époque, mais elle a été nettement améliorée. On a fait un petit peu un an à deux ans de R&D là-dessus et on s'est dit, mais c'est absolument génial, c'est un produit qui est lavable. Et puis moi, cette expérience, en fait, ce qu'on a voulu vraiment essayer de faire sur l'enfant, c'est de partir sur l'ergonomie. C'est-à-dire qu'en gros, c'est pas un produit pour être belle, mais c'est un produit pour faire son expérience comme maman. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir s'en mettre partout, après de pouvoir passer au bain, de pouvoir se nettoyer, passer à l'eau, etc. Mais c'est pas que un vernis solventaire, on peut pas laisser ça à un enfant. Il l'empose sur la table ou sur la moquette, c'est fini. Alors que là, c'est nettoyable. C'était un jeu. C'est pour ça que d'ailleurs, on s'est associé aussi à la marque Omai, que les boîtes sont devenues coloriables, chaque vernis est un petit personnage. Ce qu'on essaie de faire dans cette gamme-là, c'est que les enfants puissent se raconter des histoires. Et puis, on revient beaucoup à essayer de sortir un petit peu du temps des écrans, on a fait avec le BB Maker il y a pas longtemps pour fabriquer ses boules soi-même. Là, on sort bientôt le Color Maker. Tu vas pouvoir fabriquer aussi tes vernis toi-même, apprendre la couleur. Enfin, on se dit qu'il doit y avoir un autre objectif que véritablement de la beauté. Du 3-12 ans. C'est assez bizarre parce qu'il y a des mamans qui ne comprennent pas et qui disent « Oh non, mais le problème de votre vernis, c'est qu'il s'en va ». Et donc, on s'aperçoit vraiment que dans la tête des gens, c'est pas si évident que ça, parce qu'en fait, elles le font le transfert aussi. Elles voudraient en fait le produit qui tient, sans se dire que finalement, c'est un produit pour enfants, et c'est pas ça qu'on vient chercher. Enfin, pour nous, le problème, c'est pas la tenue sur l'enfant, c'est la sécurité.
C'est la sécurité, ouais, tout à fait. D'ailleurs, vous avez développé beaucoup de choses autour des enfants. Vous avez fait beaucoup de collabs et tout, au point que. Moi, à un moment, j'ai un peu assimilé Nelmatic à l'univers des enfants. Il n'y avait pas un risque de brouiller un peu les pistes?
Si. Il y avait le risque. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un engouement quand on a lancé l'enfant. Ça a été un vrai tremplin pour Nelmatic, la partie enfant, parce qu'on était vraiment parmi les premiers. Et qu'il n'y avait rien sur ce marché. En tout cas, rien...
Rien de safe.
De safe, de sérieux, et qu'il y a eu un engouement, mais on a ouvert 25 pays en un an et demi. Hein, donc,
quand même.
Et à peu près partout et à l'export, on a eu des appels et des opportunités quasiment partout. Donc c'est vrai qu'on s'est un peu focalisé sur cette opportunité. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit, c'est très facile à copier. et qu'il faut être les premiers.
Ouais, c'est ça.
Et donc, on a dit, il faut qu'on plante quasiment dans les 20 pays les plus importants, il faut qu'on arrive les premiers.
Donc, vous êtes arrivé où? Aux États-Unis, en Asie?
On est arrivé beaucoup sur l'Asie, le Japon, l'Australie, la Corée, un peu de cross-boarding sur la Chine tout de suite.
D'accord.
Et puis après, on a eu tous les pays d'Europe, Allemagne, Angleterre, Italie, Espagne, Belgique, beaucoup les pays du Nord, beaucoup très sensibles à tout ce qui est un peu clean beauty, tous les pays Norvège, Danemark, ouais, etc.
Scandinavie, quoi.
On a eu, assez vite en effet, aussi les US, le Canada.
Ouais.
On est très peu aujourd'hui en Afrique et en Amérique du Sud, qui restent encore des marchés quand même très, très compliqués.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'on a eu ces opportunités très vite. Et on a commencé autour du vernis. On s'est aperçu assez vite qu'il y avait des nouvelles marques. Hein, c'était assez facile, qui venaient, qui commençaient par le vernis. On s'est dit, en fait, pour créer vraiment de la différenciation, il faut qu'on mette toute notre énergie sur le développement de gamme et sur la profondeur. Donc, en fait, on s'est dit, y a l'univers du bain qui est vraiment un univers à exploiter sur l'enfant parce que qui est hyper ludique. Ça fait 2 ans et demi qu'on est sur un super projet qui va sortir l'année prochaine. C'est qu'il y a un autre univers que Nelmatic va exploiter, qui est le grimage, mais avec un produit qui est complètement révolutionnaire aussi. Et en fait, on s'est juste dit aussi sur le côté de l'enfant, c'est que c'est
oui, c'est exponentiel.
C'est exponentiel, mais c'est surtout, on s'éclate.
Et c'est ça.
Les gens qui font la distribution aujourd'hui sur l'enfant, ce sont des distributeurs quand même qui sont tous super. Même les chaînes comme Oxibul, etc. Et franchement, c'est un univers hyper créatif. Donc
voilà.
Nous qui adorons ça, c'est un terrain de jeu super, quoi.
Ouais, j'imagine. Et en 2018, vous lancez le Lab, donc les vernis DIY. Alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer le concept?
Oui. Alors, en fait, il y a une passe-passe un peu chez Nelmatic qui est une date un peu importante. C'est septembre 2017, on prend une décision par appel de... par opportunité aussi, mais on fait une grosse levée de fonds en fin 2017 avec un fonds d'investissement, un gros fonds d'investissement, on rentre 1,5 million et à ce moment-là on prend ça pour redynamiser complètement en fait notre offre femme, qu'on aime de moins en moins appeler femme, parce qu'en fait qu'on appelle plutôt une gamme adulte, parce qu'en fait on veut pas genrer, nous ça a toujours été un truc qui nous, pourquoi pas le vernis aussi pour les hommes.
Exactement.
Et en fait, là, on s'est dit, à ce moment-là, on a vraiment voulu faire la bascule. Surtout, on a stoppé complètement notre ancienne gamme et on a basculé complètement sur le biosourcé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de produits issus de la pétrochimie chez nous. Tout est issu de la biochimie.
D'accord.
Donc, ça a été une étape importante en 2017. On a commencé à le faire sur PureColor. Et au moment où on a travaillé sur PureColor, on se dit quand même, aujourd'hui, on est dans l'ère de la personnalisation. C'est quand même hyper fun de pouvoir. Et il n'y avait jamais personne n'avait poussé un peu le protocole à pouvoir faire. Alors, c'est ce qu'on appelait, ce qu'on trouvait aux États-Unis, ce qu'on appelait le Franken-Polish.
Ouais.
Il y en a là qui faisaient ça dans leur salle de bain en mélangeant des ombres à paupières avec de la base, etc. En fait,
ah oui,
ça
d'accord.
Faisait des trucs pas stables. Mais elle s'amusait à ça. Et on s'est dit, mais comment arriver à créer en créant des bases de pigments, en faisant des recettes. Donc on a commencé à créer plein de recettes. On a fait travailler quelqu'un pendant 1 an dessus, une coloriste, et on a commencé on a créé ce lab. Ouais. Mm. Et on trouvait que c'était vraiment un truc de différenciation. Je crois qu'on est les seuls aujourd'hui à l'avoir vraiment poussé aussi loin. Et on croit aujourd'hui que finalement la différenciation sur le vernis, entre autres, bon, on a une identité, etc. Mais c'est aussi par tous ces concepts qu'on crée autour de Nelmatic que Nelmatic est vraiment une marque qui ne ressemble pas aux autres.
Ouais, c'est ça. C'est
donc
ça.
C'est pour ça qu'on pousse un peu les curseurs un peu loin.
Ouais.
Et puis c'est aussi un peu pour ça qu'on fait ça. Je crois que c'est je dis souvent, Nelmatic c'est un espace de liberté, quoi. Donc j'aurais jamais pu faire ça dans un groupe,
c'est clair,
comme j'aurais jamais pu faire des distributeurs automatiques. Donc en fait on se permet un peu tout dans la mesure du possible et des moyens, mais là on avait eu les fonds, etc., et donc on s'est dit, allez, on va un tout petit peu plus loin.
Ouais, vous êtes servi
ouais.
Et les consommateurs ont tout de suite adhéré?
Une partie des consommateurs,
oui.
On va dire, il y a plus peut-être un tout petit peu quand même une cible un peu plus jeune, toute la partie aussi des influenceurs
qui ont
tout de suite assez adhéré au projet. On avait fait d'ailleurs suite à ça un pop-up store aussi pour faire découvrir le projet, et là on le relance à la fin de l'année.
Ah.
mais de façon un tout petit peu plus grand public, puisqu'on a fait quatre boîtes qui sont déjà pré-préparées, beaucoup plus visuelles, marketées, etc., avec un prix de vente public plus accessible, où tu vas pouvoir, par exemple, j'aime les rouges, je vais pouvoir fabriquer tous mes rouges.
Ouais, d'accord, okay.
J'aime tout ce qui va être pailleté, effet, je vais pouvoir, fin d'année, me faire tous mes vernis effet pailleté et me fabriquer jusqu'à 5 ou 6 vernis par boîte. Donc, on commence à le faire pour le décliner un tout petit peu plus en chaîne, parce qu'aujourd'hui, tel qu'on l'a travaillé, il fonctionne très bien en atelier, c'est-à-dire tu vas te retrouver en atelier avec quelqu'un qui va être là et qui va faire. Donc on a formé des ambassadeurs qui peuvent le faire aujourd'hui en do it yourself en atelier, mais enfin il faut trouver encore des gens, il n'y en a pas tant que ça, on a une vingtaine d'ambassadeurs. Et on a poussé aussi un peu le curseur un peu plus loin au Canada, où maintenant on propose, et on va essayer de le faire l'année prochaine, on croit aussi que ça c'est une autre opportunité, c'est de se dire, dans les instituts, ils peuvent pas avoir une tonne de stock, et qu'en fait, on leur crée des ongliers avec toutes les recettes, il y a plus de 120 couleurs, et avec 7 pigments, elles peuvent faire 120 couleurs.
Ouais.
Et en fait, l'idée, c'est de leur proposer le kit, de leur apprendre à faire, et de se dire, au lieu de vous embêter, faites la couleur à votre propre cliente, vous lui apportez vraiment un truc hyper fort, elle choisit sa couleur, vous lui fabriquez, vous lui posez, elle repart avec. Et on essaie de creuser un tout petit peu plus sur le côté professionnel maintenant.
D'accord. Et quand tu parlais d'ambassadeurs, c'est des ambassadeurs qui se déplacent chez
des gens
consommateurs,
qu'on a formés, et après soit qui vont faire des ateliers de do-it-yourself, soit à domicile, ou pour certains qui font aussi animent des soirées de jeunes filles, parce qu'elles vont faire un enterrement de vie de jeunes filles ou des choses comme ça. Elles vont se dire, on va se faire un atelier vernis, ou tu vois, ça peut être des choses comme ça. Ou on fait aussi, on peut le faire, et ça nous est déjà arrivé de le faire aussi dans des en entreprise, parce qu'ils cherchent une animation, des choses comme ça. Donc, on a formé différentes personnes qui peuvent le faire dans des cadres différents.
C'est ça. Et alors, votre dernière innovation, c'est le vernis à l'eau.
Ouais.
Comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il a les mêmes qualités que les vernis green ou conventionnels, je veux dire en termes de tenue, de brillance, etc. Quelle est sa valeur ajoutée par rapport au vernis green, par exemple ?
On a poussé le curseur encore une fois. Je crois qu'on est premier en Europe, puisqu'il y a déjà une marque qui l'a fait au Canada et au Japon. On est premier en Europe à lancer cette technologie. C'est le vernis, en fait, d'un point de vue écologique, c'est le vernis le plus écologique du monde.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que 55% du produit, c'est de l'eau.
Okay.
Et que le solvant qui puisse être mis dans un vernis qui est soit issu de la pétrochimie ou même de la biochimie, mais il y a eu une transformation, puisque la biochimie, c'est qu'on a pris canne à sucre, manioc, on l'a transformé en solvant, en éthyle, et on utilise après ce solvant pour, en fait, on n'a pas un solvant qui est issu du pétrole, mais qui est issu de la biochimie.
Oui,
mais malgré tout, il y a quand même eu une transformation, il y a eu une dépense énergétique, il y a eu une matière première, même si elle est biosourcée, il y a quand même une matière première. Alors que l'eau, on ne fait pas plus renouvelable que l'eau aujourd'hui, et que là, 55% du produit, c'est de l'eau.
D'accord.
Alors, c'est un produit qui est complexe parce qu'en effet, dans l'eau peut se développer aujourd'hui des bactéries, alors que dans un solvant classique, il peut pas y en avoir. Donc, c'est des produits qui doivent être fabriqués en chambre blanche, etc. Il y a des tests de bactériaux avant le conditionnement, post-conditionnement. Donc, c'est des produits qui sont technologiquement plus complexes. Et puis, en effet, aujourd'hui, on l'a mis d'ailleurs dans notre charte, c'est on n'est pas parfait, on essaie de s'améliorer chaque jour. C'est qu'on se dit, ça fait rien, on y va, il n'est pas encore parfait ce produit, mais pour le coup, on veut proposer une vraie alternative. Il a des vrais plus, c'est qu'il ne dégage pas du tout de gaz et d'odeur. Donc, en fait, pour le coup, il n'y a pas d'émanation du tout, parce qu'il n'y a pas de volatile à l'intérieur. Donc, en effet, de pollution, c'est un produit qui ne peut pas polluer l'air. Qui représente aussi plein d'avantages par rapport à la fabrication, parce qu'en effet aujourd'hui les gens qui fabriquent des vernis classiques s'exposent aussi aux émanations de façon un tout petit peu plus importante que nous quand on utilise son vernis.
Bien sûr.
Donc même d'un point de vue moral, etc., on se retrouve avec des gens qui s'exposent pas du tout. Nous on pense que le vernis à l'eau c'est l'avenir du vernis. D'un point de
carrément.
Vue vraiment. On est à 3-4 jours de tenue aujourd'hui. En effet, par rapport à un vernis traditionnel, c'est un vernis qui est un tout petit peu plus fragile et qui oblige d'utiliser en fait un top coat, qui est un top coat aussi à l'eau. Et en fait, je suis persuadé, parce que là, on vient de changer déjà notre top coat, on a une nouvelle résine qu'on utilise, qui est top, et qui fait que déjà, on a gagné une à deux journées de plus. Et je pense que d'ici 2 ou 3 ans, on arrivera quasiment à un résultat de vernis standard, à savoir, nous, on n'a jamais allé sorti de la technologie des vernis semi-permanents, où en effet, là, de toute façon, on est sur une technologie qui est tout autre. Nous, on n'y va pas, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, ça représente... pour nous, ce n'est pas suffisamment safe. Et en tout cas, le problème étant vraiment le démaquillage.
Ouais, c'est ça, bien sûr. Bien sûr. Et tu penses que les gens sont prêts à adhérer, enfin les femmes notamment, à adhérer et à accepter un vernis qui a moins de tenue, mais qui par ailleurs est beaucoup plus respectueux de l'environnement.
Nous, ce qu'on voulait, c'était proposer une alternative. Après, en fait, chacun libre choix, tu vois, je suis pas du tout quelqu'un qui va se... Même par rapport au semi-permanent, mais très bien, si vous voulez poser de temps en temps du semi-permanent, attention, peut-être pas tout le temps, je comprends l'avantage, utilisez de temps en temps, mais changez, peut-être revenez, faites attention aussi à vos ongles. Il y a des gens qui n'ont pas du tout les mêmes qualités d'ongles, il y a des gens qui ont ongles plus fragiles que d'autres, il y a des gens pour qui le semi-permanent respect. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, voilà, proposons des alternatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le biosourcé, c'est très bien, vous avez votre brillance, vous allez avoir un bon résultat, etc. Mais je ne supporte pas les odeurs de vernis, je suis allergique au vernis, je suis enceinte, mais j'aimerais quand même poser du vernis. Bon, bah là, on leur propose une alternative où il n'y a pas d'émanation. On est sur un produit qui est vraiment hyper safe, qui est quasiment très très proche en fait de notre technologie des vernis à l'eau qu'on utilise pour l'enfant, mais dans lequel on rajoute des résines qui résistent à l'eau pour qu'il ne s'en aille pas à l'eau. D'ailleurs, assez bizarrement, c'est un produit qui est compatible avec notre dissolvant qui est 100% biosourcé. Donc on peut vraiment être dans un protocole hyper safe, mais c'est pas un produit qui s'en va facilement.
Ouais, d'accord, ok.
Parce que comme il n'y a pas de solvant, oui. Automatiquement, il est assez difficile à enlever.
D'accord. Et alors, il n'y a pas de maquillage chez Nelmatic. Il n'y en aura jamais ?
Il ne faut jamais dire jamais. Non, je crois qu'aujourd'hui, on s'est un peu... s'il y a une équipe, un développement, on est quand même assez structuré aujourd'hui, 17 personnes, mais on est obligé de faire des choix. Aujourd'hui, on s'est dit, restons vraiment sur la partie adulte, focus quand même sur un spécialiste de l'ongle et on explore cette partie-là le plus loin possible. Sur la partie soins, sur la partie couleur, sur la partie lab, sur la partie distribution automatique. On a encore développé des plus petits distributeurs qu'on peut mettre en hôtel. Donc, on reste quand même dans ce domaine d'exploration. Par contre, sur l'enfant... là, on va explorer l'univers de l'enfant dans sa globalité. Donc, arrive le grimage partir de l'année prochaine. Là, on a le bain, on a l'offre couleur. On est en train de regarder aussi, on est moins dans notre univers là, mais pourquoi pas l'univers aussi de la senteur. Peut-être, tu vois, de ces odeurs un peu comme le parfum de doudou, le parfum d'oreiller. Donc, on explore quand même un certain nombre de choses. Tout en étant quand même toujours vigilant. Alors nous, comme on fait exclusivement du Made in France ou du Made in Europe, mais en tout cas c'est toujours du Made in EU pour rester dans la réglementation européenne et avoir des fabricants qui sont quand même sous contrôle la réglementation, ça complique des fois, parce qu'en effet aujourd'hui on est souvent obligé sur l'enfant de repartir en R&D et de repartir sur d'une feuille blanche. Donc en fait on est souvent sur des développements qui prennent du temps. On est en gros au moins 12 mois de R&D plus les stabs, etc. On arrive très souvent autour de 24 mois. Au mieux, c'est 12-15, mais ça va jusqu'à 24 sur des produits plus complexes.
Ok. Ouais, donc effectivement, il faut...
Faut du temps.
Faut du temps. Et des moyens.
Et des moyens.
Et alors, après les formules, c'est quoi la prochaine étape pour la marque? Est-ce que c'est, je sais pas moi, le recyclage des flacons ou
Alors, on a ça, c'est un vrai sujet qui nous a toujours préoccupés, mais en fait aujourd'hui on dépend quand même, mais c'est la même chose pour les matières premières, hein, mais pour les articles de conditionnement c'est pareil, on dépend de la sous-traitance, voilà. Et donc on dépend de
toujours le même problème,
voilà, de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur le marché. Il y a une vraie prise de conscience. Il y a un objectif zéro plastique, nous on commence déjà à y réfléchir. Il y a pour beaucoup de produits on utilise le carton, on essaie de pas utiliser, c'est-à-dire que on essaie de se dire à chaque fois qu'on va rajouter, même l'offre cadeau est très importante par exemple sur l'enfant, donc tu vas dire on vend des coffrets à gogo,
voilà.
Si t'écoutes un peu le côté un peu plus distributeur, ils disent ouais mais nous on veut le coffret, on voit tout à l'intérieur,
ouais,
mettez-nous un truc. Voilà, on a toujours lutté contre ça. C'est-à-dire que tu vois, par exemple, on met un seau en métal et on se dit que ce seau en métal, il devient un seau à Lego. C'est l'idée, en fait, de se dire que comment on peut réutiliser, que si on a mis quelque chose, il est réutilisable.
Ouais, d'accord.
Et puis après, quand on utilise des choses, on utilise plutôt des choses qui sont du carton, parce qu'on peut utiliser des cartons aux normes de normes FC. Et puis après, on peut aussi, pour le coup, le carton est vraiment un élément qui est le plus recyclable.
Recyclé, oui, bien sûr.
C'est vrai qu'on utilise plus du verre,
oui.
Parce qu'en effet, c'est plus recyclable aujourd'hui que des plastiques. Mais très souvent, dans un article de conditionnement, on se retrouve contraint à mélanger un bout qui est en plastique et puis de l'autre un flacon qui va être en verre.
Oui.
Alors là on est en train de travailler dessus, on a fait un gros travail avec Eco-Emballage et le marketing va mettre en poste et on va déjà le faire sur notre site, mais on commence à le faire aussi dans l'ensemble de nos produits. C'est que sur chaque produit on aura à la fin de chaque présentation de produit comment recycler chacun des packaging.
Okay.
C'est-à-dire mettre ça dans le verre, mettre ça dans le plastique. Et nous, on essaie aujourd'hui de travailler des plastiques qui sont recyclables.
Ouais, d'accord.
Mais c'est vrai qu'on essaie de trouver des alternatives au plastique et que c'est compliqué, quoi.
Compliqué. Et on parle beaucoup en ce moment du maquillage dont les consommatrices se détourneraient. Je parle au conditionnel parce que ça m'a pas l'air si flagrant que ça. Est-ce que tu penses que le vernis pourrait tirer son épingle du jeu ?
Le vernis, c'est un produit cyclique. Il a connu vraiment des périodes très... ces 2-3 dernières années étaient sur un cycle plutôt down. Donc, on l'a vu d'ailleurs dans le MAS, on l'a vu à peu près partout. C'est un produit qui est très lié à l'innovation. Moi, je pense qu'il est plutôt ramené dans l'univers de la mode, etc. On le voit d'ailleurs dans les pages de magazines. C'est un produit qui est toujours présent. C'est pas un produit qu'on porte tous les jours. Mais je pense qu'en effet, ça reste un produit. Ça reste un produit qui restera un produit de la trousse de toilette ou de la trousse de maquillage de à peu près beaucoup de femmes, toutes les femmes. Suite à la crise, je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu il est surtout lié au masque. C'était vrai que se maquiller et mettre un masque toute la journée, pas très compatible. On sait que c'est le segment des lèvres qui souffre. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu momentané. Et moi, je pense qu'après chaque crise, j'espère vraiment qu'on passera cette étape-là. Il y a un moment donné un peu d'une envie encore un petit peu de couleur. Finalement, le maquillage, c'est quand même aussi, c'est aussi la couleur. C'est quelque chose qui est censé te donner le moral. C'est quelque chose qui est censé te faire du bien. Et donc, j'espère qu'on retombera dans une petite euphorie qui fait que, globalement, c'est un marché qui démarra. Je crois que là, aujourd'hui, c'est quand même très, très difficile de tirer des conclusions, compte tenu qu'on est en train de passer une période assez atypique, quoi.
Ouais, complètement. Ouais. C'est du jamais vu. Donc, de toute façon, personne ne peut effectivement prévoir l'avenir. Et comment tu vois justement la période post-Covid, quoi, pour le make-up.
Alors moi, j'ai revu des études. Il y a vraiment un truc dont je suis persuadé, mais depuis le début, parce que nous, on a toujours été inscrits vraiment. Enfin, tu vois, quand on parle, tout devient un peu clean beauty, etc. C'est-à-dire que, il y a maintenant le côté... greenwashing, on va dire.
Même cleanwashing.
Cleanwashing, etc. Donc, Nous, ça a toujours fait vraiment partie de nos valeurs, mais je crois que là, cette fois-ci, tu vois, il y a des gens qui pouvaient encore se poser la question. Je crois que c'est vraiment pas une mode, ça devient incontournable, et finalement, ça redistribue aussi les cartes, en faveur de toutes ces initiatives et des beauty entrepreneurs et de toutes ces jeunes marques qui arrivent en fait sur le marché. Donc, je trouve ça très bien. Je crois qu'il y a de la place pour toutes ces marques-là. Il y a de la place pour différentes raisons. Parce qu'à la fois, je crois que la distribution aujourd'hui, on voit ce qui se passe un peu chez Monoprix ou ailleurs, est prêt à leur laisser une place. Et puis, qu'il y a plein d'initiatives, des gens avec beaucoup de valeur. Pour les gros groupes, c'est un peu plus compliqué parce qu'automatiquement, aujourd'hui, ils sont obligés de se repositionner et on ne s'invente pas des valeurs du jour au lendemain.
Ah non.
Et je crois qu'en effet, les cartes sont vraiment en train de se redistribuer. Dans les études que j'ai vu qu'en effet, post-crise, la post-Covid, qui était intéressante, c'est qu'à peu près 50% des gens étaient prêts à essayer maintenant des nouvelles marques et des marques qui incarnaient justement, et d'autant plus si elles étaient Made in France. Et d'autant plus si elles incarnaient des valeurs autour de la clean beauty, etc. Et je crois qu'en effet que le consommateur aujourd'hui est prêt. Ça a été longtemps, entre parenthèses, mais je crois que le problème du clean, du bio, etc., ça a été quand même souvent, pendant longtemps, un problème de bobo. Je crois que c'est de moins en moins vrai et qu'aujourd'hui, une prise de conscience un peu générale. Je crois que c'est en train de se passer, même au niveau de tout ça est lié,
oui,
à l'environnement, c'est des
sûr.
Projets. Et je crois qu'on est aujourd'hui, de toute façon, je crois que tout le monde a à peu près compris qu'on n'avait pas le choix et qu'il fallait qu'on se prenne en main pour laisser une planète à peu près correcte aux gens qui allaient venir derrière nous, quoi.
C'est clair. Ben, on va terminer sur cette note. Merci Boris.
Merci à toi.
Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, abonnez-vous sur Apple Podcast et n'hésitez pas à nous laisser un avis et surtout une note. 5 étoiles, ce serait génial. Beauty Toaster est diffusé sur toutes les bonnes plateformes de podcast, sur les applis de musique à la demande et sur le blog beautytoaster.fr. Pour être informé des nouveaux épisodes, c'est facile, ils sont annoncés sur le compte Instagram et la page Facebook de Beauty Toaster. Suivez-nous. En attendant, passez une bonne semaine et rendez-vous mercredi prochain à 7h.